Ça.
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 Ça. Ça. C'est jazz. Bebop.
Free jazz.
Jazz rock.
Big band.
Hard bop.
Ethno jazz.
Swing.
Jazz manouche.
Jazz fusion.
Bossa nova.
Cool jazz.
Jazz vocal.
Ça.
Ça.
Ça c'est jazz.
Ça c'est jazz.
Salut Bruno.
Salut Nico.
Salut à tous les auditeurs.
Ce mois-ci, Miles Davis.
We'll be right back.
C'était Decoy, le morceau phare de l'album Decoy, du même nom, de 1984, du trompettiste, arrangeur, compositeur Miles Davis, le grand Miles Davis, qui a marqué quand même toute l'histoire du jazz, qui a fait changer, quand même, on peut dire, le cours du jazz plusieurs fois dans sa vie. On va essayer de retracer un petit peu ça dans la suite de l'émission, vous allez voir. On avait quand même quelques figures marquantes, c'est de 84, quelques figures marquantes du jazz actuel, notamment au sax, on avait Brant Formatsalis et Bill Evans, on avait John Scofield à la guitare, ils ont tous créé des formations notoires, Al Foster à la batterie, voilà, je vous fais pas le détail. Donc ça, c'est le renouveau de Miles, c'est le Miles après sa pause dans les années 70. Il a redémarré avec Decoy, son troisième album, voilà, où vraiment, là, il prend des nouvelles directions. On va revenir en arrière avec Nico.
Avec Jeru, un morceau issu de l'album Birth of the Cool, qui est un album enregistré par Miles en 1949 et en 1950, il y a différentes sessions, mais un album qui n'est sorti qu'en 1957. Alors, Birth of the Cool, c'est un grand tournant pour la carrière de Miles Davis, puisque c'est véritablement son premier album en tant que leader. Et c'est un grand tournant pour le jazz puisque Miles Davis se démarque du bebop qui existait jusqu'à présent pour lancer un nouveau courant de musique. Alors, vous allez écouter Jeru, vous allez pouvoir remarquer qu'il s'agit d'une formation assez originale puisque c'est un nonette, donc 9 musiciens. Et Jeru est un morceau, comme le reste des morceaux d'ailleurs de l'album Birth of the Cool, qui est arrangé par Jill Evans, dont nous aurons l'occasion de reparler. Jeru. Thank you.
êtes toujours sur Radio Saint-Afrique, dans Ça c'est Jazz. On continue notre émission spéciale Miles Davis. On enchaîne sur un album de 1960 qui s'appelle Sketch of Spain. C'est encore un album avec un grand orchestre, avec des arrangements du grand Gil Evans, qui est quand même l'arrangeur exceptionnel de cette époque-là, qui, pour Miles Davis, c'est très important, est blanc. Il est blanc. Et ouais, et parce que Miles, quand même, c'est quelqu'un qui promouvoit quand même pas mal la culture noire. Il le dit clairement, il dit, moi, entre deux musiciens blancs et noirs, si deux jouent de la même manière, je prends le noir, c'est évident. Il est très rigolo comme bonhomme. C'est un personnage quand même assez haut en couleur. Cet album, il est d'inspiration classique et européenne, Nico ?
Exactement, puisque cet album s'inspire de musique classique espagnole. D'ailleurs, le premier morceau de cet album, c'est le concerto des Aranjuez d'un compositeur qui s'appelle Rodrigo. Mais le morceau que nous avons choisi de vous faire écouter et de partager avec vous, c'est le morceau Will of the Wisp, qui est composé par Manuel de Falla, également un compositeur espagnol du XXe siècle. Donc j'espère que vous serez sensible au son des castagnettes Will of the Wisp.
Thank you.
S'il y a bien un musicien éclectique dans l'histoire du jazz, il s'agit de Miles Davis. Et nous allons enchaîner avec un titre qui s'appelle Bach's Groove sur l'album du même nom qui date de 1954. Cette fois, Miles Davis joue en quintette et Bruno va nous en dire un peu plus sur ses musiciens.
Alors, Miles, il joue effectivement en quintette avec Kenny Clarke à la batterie, Mill Jackson au vibraphone, Persis à la basse et Thelonious Monk au piano. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est une formation pas très habituelle, c'est le seul vent, Miles, à la trompette. Et on a quand même deux instruments intéressants, c'est vibraphone et piano. C'est quand même quelque chose de pas très courant, surtout que vous pouvez tendre l'oreille sur le pianiste, le fameux Thelonious Monk, qui est vraiment une des grandes figures du piano. Qui joue d'une manière qui, Miles l'a dit souvent, le dérangeait en fait, parce qu'il adore son jeu qui est très aérien, mais vous allez pouvoir remarquer qu'il se place dans le temps d'une manière complètement étrange, qu'il place des notes, on se demande un peu d'où elles sortent. C'est ce même Thelonious Monk qui, quelques années plus tard, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre émission,
probablement,
a créé un concept qu'il appelait l'harmolodie, un mélange d'harmonie, etc. Vous allez pouvoir entendre Bach's Groove, Miles Davis.
Thank you.
C'était Miles Davis, le morceau Bag's Groove. Et nous allons enchaîner avec un autre morceau de notre cher Miles Davis. Un morceau intitulé Milestone sur l'album du même nom qui est sorti en 1958. Il faut savoir que dans la carrière de Miles Davis, il y a eu énormément de périodes et de formations différentes. Et le morceau qu'on vous propose d'écouter maintenant est un morceau enregistré avec ce qu'on appelle son premier grand quintet, composé de John Coltrane au saxophone ténor, de Red Garland au piano, de Paul Chambers à la contrebasse et de Philly Joe Jones à la batterie. Alors, il faut savoir que sur l'album Milestone, ce quintet se voit ajouter un second saxophoniste qui s'appelle Cannonball Adderley. N'est-ce pas, Bruno ?
Ouais, Cannonball Adderley. Ouais, c'est Miles parle de Cannonball Adderley comme un très grand saxophoniste et il dit même que s'il n'y avait pas eu Coltrane, Adderley aurait été beaucoup plus connu que ça. Bon, on va pas renier Coltrane, hein, c'est quand même le dieu du sax, quoi. Cet album, en fait, c'est, on pourrait dire, un premier pas vers les albums qu'on suivit, notamment le grand album très connu de Miles Davis qui s'appelle Kind of Blue, qui est sorti en 59. Donc là, on est sur Milestone, qui est de 58. Et c'est un pas vers le jazz, ce qu'on appelle le jazz modal, c'est-à-dire que c'est une approche musicale, va dire, différente par rapport, par opposition, on pourrait dire, au jazz tonal.
Exactement, un autre pavé dans la mare de la part de Miles Davis.
Ouais, vraiment, ouais, c'est clair, ça fait une sacrée histoire. Il y a quand même, il faut raconter une petite histoire quand même sur cette formation de Miles. Quand ils étaient sur scène, Coltrane raconte que Miles venait le voir et lui parlant au coin de l'oreille, il disait « Écoute un peu ce que fait Adderley, c'est vraiment ce type, est vraiment super fort, il joue des trucs géniaux !» Et Adderley jouait, et que la Coltrane, ça lui remontait, et là, il se prenait le sax, et là, il l'envoyait, alors, du son grave, et puis il a un coffre Coltrane, c'est extraordinaire, quoi. Et là, il chopait Adderley, mais il lui disait, ce type-là est vraiment très fort, il va vraiment griller tout le monde. Et en fait, comme ça, il les poussait, ils ont bien compris que c'était un petit jeu, et en fait, c'est comme ça qu'ils s'amusaient à faire monter la sauce, et ils ont créé comme ça une formation qui envoyait des choruses de sax, qui était extraordinaire, vraiment une super étape dans l'histoire du jazz qui a marqué vraiment longtemps derrière. Milestone. Thank you.
Quelle énergie! On va maintenant explorer une autre facette de Miles Davis, à savoir la facette jazz-rock, jazz-fusion. Donc nous sommes dans les années 70, avec le morceau Honky Tonk, issu de l'album Get Up With It, qui est paru en 1974. Mais il faut savoir que sur cet album, en fait, on retrouve différents enregistrements, puisque le morceau Honky Tonk date de 1970. Alors, Miles Davis est un musicien qui a toujours su s'entourer des personnes, des musiciens qui perçaient au moment où il jouait, où il enregistrait. Donc cette fois-ci, il s'entoure de nouveaux musiciens, dont le fameux guitariste John McLaughlin.
John McLaughlin, ouais, il faut bien entendre, il y a John McLaughlin, il y a aussi Keith Jarrett et Herbie Hancock, qui multiplient les intervenants dans ses albums à cette époque-là. Et vous allez écouter un petit peu le chorus de John McLaughlin, vous verrez, vous avez l'impression qu'il y a deux guitaristes. En fait, non, 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 c'est tout simplement que Miles, eh ben, il s'est permis de mettre une pédale wah-wah sur sa trompette. Ça fait scandale dans le milieu jazz, ça c'est rien de le dire, mais c'est assez incroyable, il fallait oser, et eh ben, il l'a fait. Écoute ça, tu vas voir. Thank you.
J'espère que vous avez apprécié le côté barré de ce morceau et nous allons écouter un morceau encore plus barré si t'es jeune et que t'es dans un trip Katmandou, si t'es plus vieux et que t'es resté scotché sur le New Age. Ce morceau est pour toi, ça s'appelle Black Satin, issu de l'album On The Corner de 1972. Peux-tu nous parler un peu des musiciens fondamentaux de ce morceau, Bruno?
Black Satin, ouais, c'est On The Corner, c'est l'époque, justement, quelques années après, il va arrêter de jouer, c'est des grosses, grosses formations, et on trouve notamment Colin Walcott au sitar, Badal Roy au tabla, ça vous donne bien le ton. Alors, on est parti pour On The Corner.
Thank you.
Ah, vive les années 70. Nous concluons cette émission sur Miles avec un live. Alors Bruno, peux-tu nous en dire un peu plus sur le dernier morceau live que nous avons choisi de diffuser ?
Alors le dernier morceau, eh ben, en fait, c'est un morceau qui est en fait l'introduction d'un concert. Un concert à Montreux en 1989. Et il faut savoir que Miles est donc mort le 28 septembre 91 à 65 ans après avoir consommé à peu près toutes les drogues qui existent sur Terre, s'être désintoxiqué, s'être réintoxiqué, redésintoxiqué, etc. Plusieurs fois, il a fini végétarien, macrobiote, etc. Voilà, paraît-il, quoi. Donc un sacré personnage que vous avez pu le comprendre. Sur scène, Miles, les dernières années, bah, comme disait Nico tout à l'heure, il est entouré de jeunes musiciens. Et quels musiciens, évidemment. Des gens, en fait, qui ont tous des gros bagages techniques. Les concerts de Miles, c'est un tapis rouge qui se déroule avec une qualité de son extraordinaire. Miles a un son parfait et, en fait, il est avant tout chef d'orchestre. On peut noter dans la distribution, je ne vous la fais pas en détail, mais un petit gars qui s'appelle Foley McCreary. Foley McCreary, il arrive sur scène en djellaba. Il a l'air complètement à l'ouest et en fait, il envoie des chorus énormes, complètement rock. Et il joue avec une guitare à quatre cordes. Quand tu lui dis pourquoi il y a quatre cordes, il répond parce que les deux autres, c'est celle du bassiste. Moi, je ne m'en sers pas, quoi. Là, voilà, vous allez pouvoir entendre de temps en temps, on entend la trompette de Miles qui intervient d'une manière un petit peu étonnante. Mais en fait, Miles, c'est vraiment le chef d'orchestre et c'est lui qui, par moment, décide comment le chorus démarre ou repart à coup de trompette. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment un chef d'orchestre. Donc, on va pouvoir entendre Intruder. Là, il va montrer en 89. C'est parti. We'll be right back.
C'était Ça c'est Jazz, une émission consacrée à Miles Davis.
Le mois prochain, on va vous parler du piano.
Un grand merci évidemment à toute l'équipe de Radio Saint-Afrique et aux techniciens.
Merci aussi à vous tous auditeurs de nous écouter.